cigarettes, les fanfares d'air belliqueux, les notables de discours. Il fallait se tenir au garde à vous, raide, puis défiler à travers les petites villes et les grandes, et répondre dans un anglais mutilé à toutes les paroles que nous ne comprenions pas. Mais tout cela n'est rien, San Francisco parut, et là nous connûmes la vraie fatigue des héros. C'était les derniers jours avant la prohibition. On vidait les caves, on avalait les cocktails avec une mélancolie déchirante. Nous fûmes de ces funérailles. À peine descendus dans le hall de notre hôtel, une foule ardente nous assiégeait. Des gens que nous ne connaissions point, que nous ne reverrions jamais, nous suppliaient de leur accorder l'honneur d'un drink. Comment résister à tant de ferveur? Généreusement, nous nous laissions inviter. Le résultat de ce grand cœur était que, de bon matin, il fallait fixer un point pour marcher droit. Dans la rue, les autovilles s'arrêtaient et le gentleman qui se trouvait au volant nous demandait « Où allez-vous? Ce serait un honneur pour moi de conduire un officier français. » Généralement, nous n'avions même point 10 pas à faire. Mais comment se dérober à une offre de service si gracieusement formulée? Et nous allions à l'autre bout de la ville, d'où un autre gentleman, tout aussi honoré que le premier, nous ramenait. Puis c'était les restaurants, les cafés, où dès notre entrée, l'orchestre à plein poumon et plein bras attaquait pour nous Marseillaise et Madelon, sur un rythme de foxtrot. De table en table, il fallait s'arrêter, accepter de nouveaux drinks, expliquer la différence entre une croix de guerre et la Légion d'honneur. Mimer un combat aérien, répondre à des questions comme celle-ci. Vous n'avez jamais fait d'avion prisonnier? Et je ne parle pas des réceptions, ni des projets de mariage, ni du service de flirt, ni celui plus fatigant encore où nous astreignait la curiosité de nos maîtresses. Tout cela sans doute était touchant, exalté, naïf. On aura certes pu à ce moment obtenir l'annulation des dettes. Mais que l'on imagine l'état où nous étions après 6 semaines de ce régime. Du moins, connûmes-nous à peu près la vie américaine. Triste vie, pauvres gens. Ah, ceux-là ne connaissent point la honteuse paresse. Quelle effroyable, quelle horrible énergie. Il semble que chaque homme, chaque femme ait dans le corps un moteur dont il faut coûte que coûte épuiser les chevaux. Les uns par le travail, les autres par le plaisir. Toute ma vie m'était moins que je n'aime pas le travail. Mais je le préfère 1000 fois au plaisir tel qu'on l'entend aux États-Unis. Il est de nature à faire prendre l'oisiveté en horreur. Y a-t-il pire crime? Une locution entre 1000 en fera sentir la qualité. Pour exprimer une béatitude complète, on disait à San Francisco « I feel like $1 million ». Je me porte comme $1 million. Mais il faut les gagner, malheureux, et tout le bien-être qu'ils représentent ne vaut pas les heures perdues à les poursuivre. Notons enfin que San Francisco passe pour la capoue des États-Unis.
Je ne veux pas travailler. Il y a un peu de ça, hein,
voilà.
Dans cet éloge de la paresse.
Voilà, donc après la libération, Joseph Kessel retourne vers les voyages, hein, donc l'Afrique, la Birmanie, l'Afghanistan, dont il tire de grands reportages et de la matière de ses romans, dont celui qui est considéré comme son chef-d'œuvre romanesque, Les Cavaliers, ou encore Le Lion, qui rencontre un immense succès.
Oui, Le Lion, encore une fois adapté au cinéma en 1962 par Jacques Cardiff. Vraiment, ça a donné lieu à de très beaux films, finalement.
Bah oui, oui. Bah, Les Cavaliers aussi, les Cavaliers. Ça avait été... voilà. D'ailleurs, moi, j'avais fait des cauchemars après avoir vu le film. Donc, il va publier aussi, notamment, Belle de Jour.
Bah, voilà, Buñuel, Catherine Deneuve.
Qui fait scandale, hein, et reste entouré d'une réputation sulfureuse jusqu'à son adaptation cinématographique en 67. Et il écrit aussi Fortune Carrée, roman inspiré d'un périple en mer Rouge, lors duquel il va le rencontrer, donc Henri de Monfred.
Hein, oui, il est un peu comme Sandra, hein, il a énormément bourlingué quand même.
Bah oui, de...
Et je l'entendais dire dans une interview que le pays qu'il l'avait le plus impressionné, c'était l'Afghanistan.
Ah oui.
Voilà, il avait une fascination pour ce pays.
Et bien, si vous voulez, on va écouter tout de suite Joseph Kessel, donc, qui se promène dans les quartiers de Kaboul.
Papa, Ce quartier de Kaboul m'enchantait. Je retrouvais avec bonheur l'entrelac de ses ruelles, venelles et impasses. Et aussi les Tchaïkhanas, si accueillantes que leur simplicité, leur pauvreté, prenaient la générosité du luxe. Nous sommes entrés dans l'une d'elles qui était située au premier étage d'une maison branlante. Et de cette sorte de balcon, on voyait mieux que de la rue le bazar et sa vie. Les façades irrégulières de terre sèche, le bouillonnement humain, les vêtements bigarrés, les couleurs heurtées, chantantes, les odeurs des fruits, des légumes, des épices, du pain qui cuit, des brochettes qui grillent, les cris, les rires, le ruisselant murmure de la foule. Oui, on embrassait le bazar dans son ensemble et son détail, dans son instant présent et comme dans son éternité. Car il portait le visage de tous les marchés de l'Asie centrale et avait sur lui la patine des siècles. Et le contemplant, je songeais à l'autre partie de Kaboul, celle où nous habitions, celle qui rejette le passé chaque jour davantage. Aux avenues asphaltées, aux édifices, hôtels, restaurants, cafés, copiés sur l'Occident. Je mesurais les changements énormes survenus entre chacun de mes voyages en quelques années. Et je me disais qu'il ne s'arrêterait pas au centre de la ville. Le mouvement était fatal, inexorable. Un jour, et peut-être bientôt, le quartier qui s'étalait sous mon regard allait perdre son merveilleux visage. Et je me penchais sur lui avec une avidité, une tendresse redoublée.
Donc voilà, donc on entendait la voix de Joseph Kessel.
C'est une belle voix, hein, voilà, et puis on comprend d'où vient le mot bazar. Hein. Il n'y en a plus beaucoup des commerces qu'on appelait les bazars. Un peu disparu ça.
Bah oui. Alors, je vous propose maintenant d'écouter le premier chapitre en fait du livre intitulé Le Lion, hein, qui est paru en 1958.
Et qu'on lisait au collège.
Et voilà, c'est ça qu'on étudiait au collège. Alors, voilà, ça y est.
Est-ce qu'il avait tiré sur mes paupières pour voir ce qu'elles cachaient ? Je n'aurais pu le dire avec certitude. J'avais bien eu le sentiment au sortir du sommeil. Un pinceau léger et râpeux s'était promené le long de mon visage, mais quand je m'éveillais vraiment, je le trouvais assis, très attentif, au niveau de l'oreiller, et qui m'examinait avec insistance. Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco. Sa courte fourrure en avait la couleur. Ainsi vêtu depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne, il semblait en peluche. Seul, le museau était couvert par un loup en satin noir, à travers lequel brillaient deux gouttes, les yeux. Le jour commençait à peine, mais la lumière de la lampe tempête que j'avais oublié d'éteindre dans ma fatigue me suffisait pour apercevoir nettement, sur le fond blanc des murs crépis à la chaux, cet incroyable envoyé de l'aube. Quelques heures plus tard, sa présence m'aurait paru naturelle. Sa tribu vivait dans les hauts arbres répandus autour de la hutte. Des familles entières jouaient sur une seule branche. Mais j'étais arrivé la veille, épuisé, à la nuit tombante. C'est pourquoi je considérais en retenant mon souffle le singe minuscule posé si près de ma figure. Lui non plus, il ne bougeait pas. Les gouttes elles-mêmes dans le loup de satin noir étaient immobiles. Ce regard était libre de crainte, de méfiance et aussi de curiosité. Je servais seulement d'objet à une étude sérieuse, équitable. Puis, la tête en peluche, grosse comme un poing d'enfant au berceau, s'infléchit sur le côté gauche. Les yeux sages prirent une expression de tristesse, de pitié. Mais c'était à mon propos. On eût dit qu'il me voulait du bien, essayer de me donner un conseil. Lequel ? Je dus faire un mouvement dont je n'eus pas conscience. La boule mordorée, ombre et fumée en même temps, sauta, vola de meuble en meuble jusqu'à la fenêtre ouverte et se dissipa dans la brume du matin. Mes vêtements de brousse gisaient à terre, tels que je les avais jetés en me couchant, au pied du lit de camp, près de la lampe tempête. Je les mis et gagnai la véranda. J'avais le souvenir d'avoir noté la veille, en dépit de l'obscurité, que des massifs d'épineux encadraient ma hutte et que, devant, une immense clairière s'enfonçait dans le secret de la nuit. Mais à présent, tout était enveloppé de brouillard. Pour seul repère, j'avais juste en face, au bout du ciel, sur la cime du monde, la table cyclopéenne chargée de neiges éternelles qui couronne le Kilimandjaro. Un bruit semblable à un très furtif roulement de dés attira mon attention vers les marches de bois cru par où l'on accédait à la véranda. Lentement, délibérément, une gazelle gravissait le perron. Une gazelle en vérité, mais si menue que ses oreilles ne m'arrivaient pas aux genoux, que ses cornes étaient pareilles à des aiguilles de pin et que ses sabots avaient la dimension d'un ongle. Cette merveilleuse créature sortie du brouillard ne s'arrêta que devant mes chevilles et leva son museau vers moi. Je me baissai avec toute la précaution possible et tendis la main vers la tête la plus finement ciselée, la plus exquise de la terre. La petite gazelle ne remuait pas. Je touchais ses naseaux, les caressais. Elle me laissait faire, ses yeux fixés sur les miens. Et dans leur tendresse ineffable, je découvris le même sentiment que dans le regard si mélancolique et sage du petit singe. Cette fois encore, je fus incapable de comprendre. Comme pour s'excuser de ne pouvoir parler, la gazelle me lécha les doigts. Puis elle dégagea son museau tout doucement. Ses sabots firent de nouveau sur les planches du perron le bruit de dés qui roulent. Elle disparut. J'étais seul de nouveau. Mais déjà, en ces quelques instants, l'aube tropicale, qui est d'une brièveté saisissante, avait fait place à l'aurore. Du sein des ombres, la lumière jaillissait d'un seul coup, parée, armée, glorieuse. Tout brillait, étincelait, scintillait. Les neiges du Kilimandjaro traversaient de flèches vermeilles. La masse du brouillard que les feux solaires creusaient, défaisaient, aspiraient, dispersaient en voiles, volutes, spirales, fumées, écharpes, paillettes, gouttelettes innombrables et pareilles à une poudre de diamants. L'herbe, d'ordinaire sèche, rêche et jaune, mais à cet instant molle et resplendissante de rosée. Sur les arbres répandus alentour de ma hutte, et dont les sommets portaient des épines vernies à neuf, les oiseaux chantaient et jacassaient les singes. Et devant la véranda, les brumes, les vapeurs se dissipaient une à une pour libérer, toujours plus ample et mystérieux, un verdoyant espace au fond duquel flottaient de nouvelles nuées qui s'envolaient à leur tour. Rideau après rideau, la terre ouvrait son théâtre pour les jeux du jour et du monde. Enfin, au bout de la clairière où s'accrochait encore un duvet impalpable, l'eau miroita. Lac, étang, marécage, ni l'un ni l'autre. Mais, nourrie sans doute par de faibles sources souterraines, une étendue liquide, qui n'avait pas la force de s'épandre plus avant, et frémissait dans un ondoyant équilibre entre les hautes herbes, les roseaux et les buissons touffus. Auprès de l'eau étaient les bêtes. J'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes. Kivu, Tanganyika, Ouganda, Kenya, au cours du voyage que je venais d'achever en Afrique orientale. Mais ce n'était que vision incertaine et fugitive. Troupeaux que le bruit de la voiture dispersait, silhouettes rapides, effrayées, évanouies. Lorsque, parfois, j'avais eu la chance d'épier quelque temps un animal sauvage à son insu, je n'avais pu le faire que de très loin ou en cachette, et pour ainsi dire frauduleusement. Les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse les vies libres et pures, je les contemplais avec un singulier sentiment d'avidité, d'exaltation, d'envie et de désespoir. Il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire. Et j'en touchais le seuil et ne pouvais le franchir. De rencontre en rencontre, de désir en désir frustré, le besoin était venu, sans doute puéril, mais toujours plus exigeant, de me voir admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. Et, avant de regagner l'Europe, j'avais résolu de passer par un des parcs royaux du Kenya, ses réserves, où des lois d'une extrême rigueur protègent les bêtes sauvages dans toutes les formes de leur vie. Maintenant, elles étaient là. Non plus en éveil, en méfiance, et rassemblées sous l'influence de la crainte par troupes, hardes, files et bandes, selon la race, la tribu, la famille, mais confondues et mêlées au sein d'une sécurité ineffable, dans la trêve de l'eau, en paix avec la brousse, elle-même et l'aurore. À la distance où je me trouvais, il n'était pas possible de distinguer l'inflexion des mouvements ou l'harmonie des couleurs. Mais cette distance ne m'empêchait pas de voir que les bêtes se comptaient par centaines et centaines, que toutes les espèces voisinaient, et que cet instant de leur vie ne connaissait pas la peur ou la hâte. Gazelle, antilope, girafe, gnou, zèbre, rhinocéros, buffle, éléphant, les animaux s'arrêtaient ou se déplaçaient au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil, encore doux, prenait en écharpe les champs de neige qui s'étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Tamisées par ce qui restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flancs sombres, dorés, rayés, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse suspendue à la grande montagne d'Afrique. Quand et comment je quittais la véranda pour me mettre en marche, je ne sais. Je ne m'appartenais plus. Je me sentais appelé par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de l'homme. J'avançais sur le sentier au bord de la clairière, le long d'un rideau formé par les arbres et les buissons. Mon approche, au lieu d'altérer, dissiper la féerie, lui donner plus de richesse et de substance. Chaque pas me permettait de mieux saisir la variété des familles, leur finesse ou leur force. Je discernais les robes des antilopes, le front terrible des buffles, le granit des éléphants. Tous continuèrent à brouter l'herbe, à humer l'eau, à errer de touffe en touffe, de flaque en flaque. Et je continuais de cheminer. Et ils étaient toujours là, dans leur paix, dans leur règne, chaque instant plus réel, plus accessible. J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant, pour connaître, sur leur terrain consacré, l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher. Les réflexes de la prudence, de la conservation étaient suspendus au bénéfice d'un instinct aussi obscur que puissant et qui me poussait vers l'autre univers et qui, enfin, allait s'assouvir. Juste à cet instant, un avertissement intérieur m'arrêta. Une présence toute proche s'opposait à mon dessein. Il ne s'agissait pas d'un animal. J'appartenais déjà à leur camp, à leur monde. L'être que je devinais, mais par quel sens, appartenait à l'espèce humaine. J'entendis alors ces mots en anglais.
Vous ne devez pas aller plus loin.
Deux ou trois pas me séparaient au plus de la silhouette fragile que je découvris dans l'ombre d'un épineux géant. Elle ne cherchait pas à se cacher. Mais comme elle était parfaitement immobile et portait une salopette d'un gris éteint, elle semblait faire partie du tronc auquel elle s'appuyait. J'avais en face de moi un enfant d'une dizaine d'années, tête nue. Une frange de cheveux noirs et coupée en boule couvrait le front. Le visage était rond, très hâlé, très lisse. Le cou long et tendre. De grands yeux bruns qui semblaient ne pas me voir étaient fixés sans ciller sur les bêtes. À cause d'eux, j'éprouvais le sentiment très gênant de me voir surpris par un enfant à être plus enfant que lui. Je demandais à voix basse, « On ne peut pas aller là-bas ? C'est défendu ?» La tête coiffée en boule confirma d'un signe bref, mais son regard demeurait attaché au mouvement des bêtes. Je demandais encore, « C'est sûr ?»«
Qui peut le savoir mieux que moi ? Mon père est l'administrateur de ce parc royal. »
« Ah, je comprends tout. Il a chargé son fils de la surveillance. » Les grands yeux bruns me regardèrent enfin. Pour la première fois, la petite figure hâlée prit une expression en harmonie avec son âge.
« Vous vous trompez, je ne suis pas un garçon. Je suis une fille, je m'appelle Patricia. »
Voilà, il fallait qu'il achète des lunettes.
Bah oui, hein. Donc voilà, ça c'était le premier chapitre hein, de Le Lion.
Avec Mia dans le rôle de Patricia.
Voilà. Donc Joseph Kessel fait ensuite partie de la grande équipe réunie par Pierre Lazareff à Paris Soir, qui représente l'âge d'or hein, des grands reporters. On regardait ça quand on était petit.
C'est vrai.
Il fait pour ce journal de nombreux voyages, dont il rapporte des reportages qui font monter le tirage du journal de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, hein, et dont il tire la matière de romans. Il est correspondant de guerre aussi pendant la guerre d'Espagne, puis durant la rôle de guerre. Alors, consécration ultime pour ce fils d'émigrés russes juifs, l'Académie française lui ouvre ses portes. Et donc, Joseph Kessel y est élu le 22 novembre 1962. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un dernier reportage, hein, si on peut dire, voilà, qu'il a fait. Et donc là, c'était pendant son séjour aux États-Unis. Et donc là, il rapporte hein, des spectacles voilà, qu'il a pu voir à New York. Et donc là, ça s'appelle « Les requins et les jets ». Donc, c'est extrait d'un livre qui s'appelle Les instants de vérité, donc des reportages qui ont été faits entre 1956 et 1964. Alors vous allez voir les requins et les jets, ça va sûrement vous dire quelque chose.
On y va.
Les requins et les jets. Le défi, dans toute sa superbe, la fureur, dans toute sa frénésie de tourments et de joie, sculptait les jeunes corps des garçons affrontés. Des insultes volaient sous le viaduc dont les piles limitaient le champ clos. Soudain, des couteaux jaillirent. Je me trouvais de nouveau dans une salle de théâtre et j'assistais de nouveau à une comédie musicale. Mais il n'y avait aucun rapport entre le spectacle de la veille, My Fair Lady, et West Side Story, que je voyais ce soir-là. Hier, c'était les reflets de la belle époque à Londres, les divertissements aimables et quintessentiels d'un philologue millionnaire, les courses d'Ascot, le couronnement du roi des Cockney. Aujourd'hui, la comédie musicale avait pour thème l'histoire de Roméo et Juliette dans l'un des quartiers les plus sordides et les plus durs de New York. Et ce n'était pas comme dans le drame de Shakespeare, à deux opulentes familles ennemies qu'appartenaient les amants tragiques, mais à deux bandes rivales d'adolescents. De ces bandes qui, à travers le monde, personnifient le drame de la jeunesse en désarroi. Et les auteurs de West Side Story avaient trouvé dans la vie américaine et dans la population de New York un élément plus sauvage encore, la haine raciale. En effet, la bande des Jets était composée, garçons et filles, de blancs, tandis que les membres de la bande des Requins avaient, eux, ou leurs parents, l'île de Porto Rico pour origine. Ainsi, par le truchement de ballets, de chansons et à travers une comédie musicale, se trouvait évoqué l'un des aspects les plus graves, les plus cruels de l'Amérique contemporaine. Et en même temps que je regardais les jeunes danseurs de West Side Story livrer leur combat, inspirés par une musique et une chorégraphie prestigieuse, je suivais d'un regard intérieur, et comme sur une bande superposée au mouvement de la scène, les images que m'avait laissé une promenade que j'avais faite le jour même, quelques heures plus tôt. Étrange et terrible contrepoint que la réalité donnait au théâtre. Cela s'était fait, je ne sais comment, d'un seul coup avec une soudaineté incroyable. À peine avais-je franchi, allant vers le nord, la 96e rue, tout avait changé. Pourtant, la structure de la ville était exactement la même. Toujours le damier de blocs monotones, rigidement coupé à intervalles égaux par des voies parallèles. Toujours ces dessins géométriques impeccables. Et voilà que, en plein New York, c'était subitement l'Espagne. Sur les boutiques, maintenant, aux enseignes criardes, chantaient des mots latins. Fruteria, carneceria, peluqueria, zapateria. Et les noms qui les accompagnaient étaient Ramon, Rodriguez, Hernandez, Jésus. Les gens vivaient dans la rue. Les femmes portaient les étoffes les plus vives. Leurs cheveux sombres et touffus luisaient. Aux oreilles, au cou, aux poignets, brillaient des bijoux de pacotille. Les hommes, sans doute, étaient habillés à l'américaine, mais par les teintes de leur chemise, le dessin de leur cravate, l'inclinaison du chapeau, ils étaient exotiques. Et les enfants, innombrables, à moitié nus, ardents, sauvages, avaient dans les yeux un autre soleil que celui de New York. À chaque pas, le dépaysement se faisait plus complet, plus parfait. Les films dont les titres éclataient aux verrières des cinémas de quartier, les quotidiens et les périodiques affichés aux devantures poussiéreuses des marchands de journaux étaient tous en langue espagnole. Filtrant des sous-sols misérables, l'odeur de l'huile frite se répandait, violente, et celle de l'ail et celle des épices. Des accords de guitare résonnaient derrière un pan de mur écroulé, dans une cour invisible, au rebord d'une fenêtre entr'ouverte, humanisaient merveilleusement les rues de New York si inhumaines à l'ordinaire, et leur donnaient par une sorte de miracle un charme malaguen ou andalou. Or, ces gens n'étaient pas espagnols. Sur la scène, le duel au couteau s'achevait. L'un des adversaires roula sur lui-même, frappé à mort. Le rideau s'abaissa lentement, c'était la fin du premier acte. Les spectateurs gagnèrent le foyer ou le bar. Je ne bougeais pas, je continuais de rêver à ce que l'on pouvait découvrir dans Manhattan après avoir dépassé la 96e rue vers le nord. Non, les gens qui vivaient là n'étaient pas espagnols. Quand les aventuriers menés par Ponce de Léon débarquèrent dans une petite île de la mer des Caraïbes, à laquelle ils donnèrent le nom de Porto Rico, des Indiens l'habitaient. Il y eut un premier métissage, puis, très vite, à cause du traitement qui lui fut infligé par les conquistadors, la tribu originelle disparut. Pour avoir de la main-d'œuvre, on importa en masse des esclaves noirs. Il y eut un second métissage. En 1898, les États-Unis enlevèrent Porto Rico à l'Espagne. Ils y trouvèrent une population formée à la langue et aux mœurs espagnoles, mais qui était le fruit d'un profond brassage racial. Malgré cela, les Portoricains eurent désormais le droit, puisque leur île appartenait aux États-Unis, d'immigrer vers ce pays sans restriction aucune. Ce privilège, ils l'ont gardé, alors même que des lois de plus en plus dures fermaient les portes de l'Amérique aux étrangers. Si bien que, aujourd'hui, les Portoricains composent la dernière des grandes vagues humaines à déferler sur New York, ce havre séculaire des migrations énormes et misérables.